Alors, on va commencer par la présentation de Stéphane Mourlan. Donc, Migration et italianité à l'époque contemporaine, entre histoire politique et histoire culturelle.
Alors, merci, merci Delphine. Bonjour à, tous. Merci de cette invitation pour ce dernier séminaire, invitation de longue date, et je suis ravi d'être là, puisqu'on a été amené, et puis j'espère qu'on le sera encore à l'avenir, à collaborer sur divers projets avec Delphine. Et donc l'idée ici, effectivement, c'est de partir effectivement de mon objet de recherche qui concerne l'émigration italienne, et de vous faire part d'un certain nombre de réflexions à la fois d'ordre historique, historiographique et voire même peut-être épistémologique, en partant justement de cette notion de statut. Que vous connaissez d'ailleurs sans doute mieux que moi, puisque c'est d'abord une notion juridique. Si on regarde, moi je fais souvent ça, quand je dois traiter d'une notion, j'ouvre mon dictionnaire dans un premier temps. Donc j'ai ouvert mon Larousse pour voir quelle était la définition qui était donnée de statut. Donc une situation de fait, une position par rapport à la société, aux institutions. Donc il me semble que partant de cette définition très, très générique, cela met en jeu la place des étrangers dans l'organisation sociale, la question du travail, la question des interactions avec la société d'accueil, mais aussi avec la société de départ, le rapport de ces étrangers à l'État, là aussi, du pays d'accueil et du pays de départ, dans une dimension, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qu'il convient désormais de considérer comme transnationale. Alors, en partant justement du cas des migrants italiens et en me centrant sur la France, que je connais le mieux, je voudrais montrer ici que les enjeux ne sont pas seulement sociaux et politiques, mais aussi culturels, et posant justement, par le biais de cette réflexion sur les statuts, la question des représentations. En d'autres termes, il s'agit ici de voir dans quel statut, dans une dimension plurielle, accorde-t-on à ces Italiens en France. Quelques mots, brièvement, pour ceux qui ne sont pas complètement au fait de cette migration, une migration un peu oubliée, occultée, ou alors dans l'opinion publique un peu idéalisée, sur le mode de « c'était mieux avant ». Des bons immigrés, avec en creux cette idée que aujourd'hui nous aurions de mauvais immigrés. Cette idée aussi que ces gens-là, ils sont presque mêmes, qu'ils appartiennent à la même ère culturelle, de civilisation, etc. Et que donc finalement la question de l'altérité s'est beaucoup moins posée avec ces migrants qu'avec d'autres migrants dont on considère que l'altérité est beaucoup plus accusée. Rappel rapide, c'est l'une des migrations les plus importantes de l'époque contemporaine. Il y a 26 millions d'Italiens qui ont quitté la péninsule italienne entre les années 1860 et 1960. On a pu parler de véritables Ulysse collectifs, et un certain nombre de ces Italiens sont venus en France dans un mouvement d'une grande fluidité. Je vais vous donner ainsi un exemple. En 1911, il y a 420 000 Italiens qui sont recensés en France. Or, entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale, la statistique italienne a relevé 1 800 000 départs vers la France. Donc 1 800 000, 420 000, je crois que ça traduit bien justement cette grande circulation, pour reprendre un terme qu'aujourd'hui les historiens se sont aussi appropriés, un mouvement de va-et-vient, d'aller-retour, mais aussi des mouvements de passage. La France, et en particulier Marseille, notre collègue Céline Regnard travaille sur ces questions, a constitué aussi un espace de transit pour ces migrants italiens. Ils ont été au plus fort de leur présence, si on peut dire, 800 000 au recensement de 1931. Et je rappellerai aussi que ces Italiens ont représenté la première nationalité étrangère en France jusqu'au recensement de 1968. Et que jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils sont, notamment dans notre région, qui est une région qui a d'immigration, eh bien, disons, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, 90% des étrangers sont des Italiens. En fait, un immigré, c'est un Italien, avant la Première Guerre mondiale. Alors, ce flux se réduit après la Seconde Guerre mondiale. On est autour de 450 000 pour se tarir, en termes de flux, hein, pas la présence, hein, dans les années 1960, où cette migration italienne se dirige vers d'autres destinations, notamment en Europe, où les conditions salariales sont beaucoup plus avantageuses que celles proposées en France. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas, dans une moindre mesure, de la Grande-Bretagne. Et puis, évidemment, il y a ce flux extrêmement important, popularisé notamment par le cinéma, vers les États-Unis. En gros, avant la Première Guerre mondiale, un peu plus de la moitié, 55% à peu près, hein, des émigrés italiens traverse l'Atlantique. En revanche, au cours de l'entre-deux-guerres, il y a un renversement. Vous le savez peut-être, hein, déjà en 1924, les États-Unis mettent en place une politique de quotas. Ils ferment leurs frontières, ce qui redistribue les flux vers l'Europe et en particulier vers la France. Et la France devient le principal pays d'accueil de cette immigration italienne. Alors, comment les historiens l'ont appréhendé? Ce phénomène, bref rappel ici historiographique, pendant longtemps, l'histoire de l'immigration a été essentiellement une histoire de l'intégration. Benedetto Croce, l'historien et philosophe italien, disait que toute histoire est contemporaine, rappelant ainsi bien l'ancrage dans le présent des problématiques des historiens. Henri Irénée Maroux disait ainsi « Nous ne pouvons isoler, sinon par une distinction formelle, d'un côté un objet, le passé, et de l'autre un sujet, l'historien. » L'historien étant, et ça c'est des thématiques que vous connaissez, qui ont été reprises par Bourdieu notamment aussi, sur cette socio-analyse des historiens et de leur rapport à leur propre temps. Et pour le sujet qui nous intéresse, la question migratoire, en fait, force est de constater que les historiens ont été fortement marqués par ce qu'on pourrait appeler le paradigme. Je vois que tu as un livre qui fait écho à cela, le paradigme républicain. Par ailleurs, on pourrait ajouter que les historiens, depuis les années 80, sont amenés à répondre à une forte demande sociale d'histoire qui apparaît avec de plus en plus de force dans l'espace public. Là aussi, je développe pas, on pourrait revenir dans la discussion si vous le souhaitez, autour des questions mémorielles, le devoir de mémoire. Aujourd'hui, vous le constatez sans doute avec moi, dès qu'un événement dans les médias, on sollicite un historien. Là aussi, au nom d'un principe un peu éculé, selon lequel le passé éclairerait le présent, ce qui n'est pas complètement faux, ou plus éculé encore, que nous tirerions des leçons du passé pour le présent. Évidemment, ça se saurait, on vivrait dans un monde bien différent du nôtre si on avait tiré toutes les leçons du passé. Il y a un autre élément aussi qui détermine d'une certaine manière les problématiques des historiens. C'est ce que François Hartog a appelé le changement de régime d'historicité. C'est-à-dire que le rapport qu'une société entretient au temps et ce passage à ce que Hartog appelle le présentisme. C'est-à-dire que c'est le présent qui détermine complètement, qui domine complètement l'analyse du passé, mais même de l'avenir. On ramène tout au présent. L'exemple que l'on donne souvent, ce sont les événements de 2001, les attentats de 2001 qui ont immédiatement, je ne sais pas si vous vous souvenez, été historicisés, ou qu'on retrouve effectivement dans cette formule, employée là aussi un peu à l'emporte-pièce, historique. Tout est historique, un record, le taux du chômage, etc. Ce qui pose d'ailleurs la question, et qui est sans doute une des perspectives sur lesquelles nous allons être amenés à travailler, du rapport et de l'apport, plus exactement, de l'histoire dans l'analyse de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise migratoire. Nous avons engagé une réflexion justement sur cette notion de crise et ce qu'elle peut signifier justement dans une perspective historique. Donc l'histoire de l'immigration, elle se structure hein, dans les années 1980. Hein, c'est le moment où se développe un certain nombre de travaux. Je rappelle bah, justement l'importance du contexte hein, qui est marqué par le retour de l'extrême droite sur le devant de la scène politique française à partir de 1983, hein, notamment les élections municipales hein, et la première. Premier score important du Front National à Dreux. Et le Front National place l'immigration au centre de sa propagande. Il réactive les vieux discours nationalistes hein, sur l'identité nationale. Et ce parti a contribué justement à placer au cœur du débat eh bien, la question de la mémoire. L'un des principaux arguments de l'extrême droite consiste à affirmer que les immigrés ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils ne partagent pas la même culture, la même histoire que les Français de souche. Et c'est dans cette... Finalement, c'est en réponse un peu hein, à ce discours hein, qui s'accompagne d'une résurgence, hein, d'une nouvelle poussée xénophobe en France, hein, avec un certain nombre de collègues. Hein, on a été amené, dans le cadre d'une ANR, à réfléchir à l'année... Enfin, une ANR qui portait, pardon, sur les Arabes vus dans les médias, Arabes avec des guillemets, évidemment. Hein, et nous avons, cela a été publié dans la revue Hommes des Migrations, réfléchi justement à l'année 1983, hein, comme tournant médiatique. Hein, 1983, donc c'est Front National. 1983, c'est la marche dite des beurs. 1983, c'est le fait divers du Bordeaux Vintimille. 1983, c'est dans un tout autre registre la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'est Pierre Mauroy, Premier ministre, qui, à l'occasion des grandes grèves qui se déroulent dans l'automobile, et en particulier à Peugeot, dit que derrière l'action syndicale, il y a déjà l'islamisme. Hein, donc il y a là un moment, hein, effectivement, un peu d'effervescence. Et c'est dans ce contexte-là que les historiens... forgé souvent à l'histoire sociale, à l'histoire ouvrière. Je pense en particulier à Gérard Noiriel, hein, qui va publier quelques années après le premier ouvrage un peu de synthèse, mais qui est aussi à la fois un peu programmatique, Le Creuset français, hein, mais aussi des historiens des relations internationales, Pierre Milza, hein, autour d'une toute une équipe à Sciences Po. Alors Noiriel, lui, il introduit la réflexion sur la question justement de l'intégration sociale, hein, qui est développée depuis longtemps hein, par les sociologues. Il développe, hein, je vais pas aller trop loin ici, hein, cette notion de socio-histoire de l'immigration qui part du principe qu'un individu ne peut pas être réduit à une seule composante de son identité personnelle. Un immigré, c'est aussi un homme, une femme, il fait partie d'un groupe socio-professionnel, il vit dans telle ou telle région, et ce sont tous ces paramètres qu'il faudrait conjuguer hein, pour comprendre comment, au cours du temps, eh bien, des millions d'immigrants ont trouvé leur place au sein des sociétés nationales. Pour les historiens des relations internationales, ces migrants ont d'abord été considérés comme des enjeux diplomatiques, comme des enjeux des relations bilatérales. Et là-dessus, Pierre Milza, dans sa thèse hein, sur Français et Italiens à la fin du 19e siècle, hein, bien, a développé justement hein, cette problématique hein, de l'immigration italienne comme un enjeu des relations hein, franco-italiennes. Y ajoutant une dimension supplémentaire, il le rappelle, je vais le citer, hein, en disant que, eh bien, avec le tourisme de masse, la migration internationale constitue en temps de paix le principal instrument de connaissance directe entre des populations de nationalités différentes. Et il s'inscrit en cela dans une tradition que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle l'école française de l'histoire des relations internationales, hein, Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel, et qui inscrivait justement le mouvement des populations dans ce qu'ils appelaient les forces profondes en structurant les relations internationales. L'idée étant de dépasser une seule histoire diplomatique, une histoire qui se serait faite justement uniquement à partir des sources diplomatiques. Une histoire, en gros, des chancelleries, des ambassades, qui se nourrissaient, qui se nourrit encore, d'ailleurs, des archives du ministère des Affaires étrangères. Moi, j'ai fait une thèse d'histoire des relations internationales sur les relations franco-italiennes, et une grande partie de mon corpus, eh bien, est constitué des archives diplomatiques à Paris et à Rome. Et on pourra y revenir, évidemment, nourri, et je vous essaierai de vous expliquer comment, d'autres documents. ces historiens, donc dans cette perspective de force profonde liée à la question de l'immigration, il y a un aspect qui a beaucoup marqué, et moi, quelque part, j'ai commencé par m'inscrire directement dans cette perspective, parce que j'ai fait ma thèse donc à Nice, sous la direction de Ralph Shore, et Ralph Shore qui a mis au centre de sa réflexion la question de l'opinion publique, hein, et du rapport, hein, il a fait sa thèse sous la direction de Jean-Baptiste Durosel, sur le rapport des Français à l'immigration sous la troisième République. Et en fait, cette réflexion, en fait, elle mettait, comment dire, les situations de rejet, la xénophobie, comme un frein, justement, à l'intégration. Hein, encore une fois, la référence, c'était la question de l'intégration. Et puisque je parle ici de frein, d'obstacle, ces historiens ont également conçu le rapport aux origines, ou encore l'emprise des États des pays d'origine, comme des obstacles à cette intégration. Il faut aussi, évidemment, hein, puisque je cite quelques grands historiens ici, évoquer Émile Temim, hein, bien connu ici. Hein, vous auriez pu d'ailleurs peut-être nous réunir en salle Temim, qui s'est complètement aussi inscrit dans cette perspective, donc que l'on retrouve, hein, pour l'histoire de l'immigration italienne. Et il suffit même de prendre les titres d'un certain nombre d'ouvrages. Je vais vous en citer deux, notamment tous les travaux qui ont été faits autour du CEDEI, le Centre d'études et de documentation de l'immigration italienne, hein, qui était autour de Sciences Po avec Milza, etc., qui a organisé toute une série de colloques. Et notamment en 95, titre d'un de ces actes de colloque, « L'intégration italienne en France, hein, un siècle de présence italienne dans trois régions françaises ». Marie-Claude Blanchaléard, qui est une élève de Pierre Milza, hein, qui est aujourd'hui professeur émérite à Nanterre, fait sa thèse sur les Italiens dans l'Est parisien. Elle sous-titre « Une histoire d'intégration ». Et on retrouve à l'échelle locale, hein, donc au niveau de la région PACA, et ça vous pouvez le vérifier, nous avons travaillé dans le cadre du programme MIMED, hein, à élaborer une base de données bibliographiques recensant un millier de travaux, hein, divers et variés, publiés, littérature grise, mémoire de master, de DEA, thèse, etc., autour de l'immigration en région PACA. Et on retrouve très nettement, hein, cette dominante, hein, liée à l'intégration. Et au passage, il y a à peu près la moitié de ce corpus, hein, un petit peu moins, hein, qui concerne l'immigration italienne. Pour des raisons, hein, que vous comprenez bien, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de cette présence. Et puis aussi, pendant longtemps, vous savez que l'histoire avait besoin de cette profondeur un peu du temps. C'est tous les débats autour de l'histoire du temps présent qui aujourd'hui a acquis de la légitimité. Alors justement, cette histoire du rapport à l'opinion publique, cette histoire des représentations, en se focalisant sur les Italiens, eh bien, a mis en lumière un certain nombre de figures, hein, d'images, de représentations, de stéréotypes, de préjugés, hein, où se mêlent justement réaction à l'événement et le jeu justement de ce qu'on a appelé pendant longtemps aussi les mentalités collectives, qui s'inscrivent concernant l'Italie, je ne sais pas, notamment un exemple parmi d'autres, ce genre littéraire qui a été le voyage en Italie, hein, qui se développe dès le XVIIe, XVIIIe siècle, qui au XIXe siècle connaît un véritable succès, sur le mode, je cite souvent cette formule de Chateaubriand, qui était l'un de ses voyageurs en Italie, hein, mais il y a eu Stendhal, il y en a eu plein d'autres, hein, un Chateaubriand qui disait que l'Italie était un pays magnifique, hein, on s'émerveillait des paysages, on s'émerveillait du patrimoine, hein, mais il ajoutait, dommage qu'il y ait des Italiens. Et en fait, moi, j'ai travaillé, enfin, à la suite de Milza, sur justement comment ces représentations pouvaient influer, hein, interférer avec la prise de décision en matière de politique étrangère. Et on voit bien que, en fait, ce rapport qu'entretient la France et les Français à l'Italie et aux Italiens est un rapport de condescendance, un rapport de mépris, hein, d'une certaine manière. Là aussi, si vous le permettez, une anecdote. En 1963, le général de Gaulle, que la France signe un traité avec l'Allemagne, le fameux traité de l'Élysée, et le général de Gaulle reçoit tous les soirs son ministre de l'information, Perfit, Et Perfit consigne toutes ces conversations, ça sera publié bien des années plus tard, et Perfit, au moment donc du traité de l'Élysée, demande à De Gaulle, mais mon général, pourquoi nous n'en faisons pas de même avec les Italiens? Et De Gaulle lui répond, mais Perfit, vous n'y songez pas, ces gens-là ne sont pas sérieux. Alors, on peut, au-delà de la boutade, c'est révélateur, justement, de ce rapport à l'altérité italienne, faite de clichés, de préjugés, de stéréotypes, qui constituent le substrat à des formes de rejet, à des formes de xénophobie, avec des choses que on pourra sans doute en rediscuter, qui s'inscrivent dans la durée à bien des égards, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, le rapport de la société française à l'immigration italienne a constitué une matrice, notamment sur la question de la criminalisation de l'étranger. L'italien, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est le manieur de couteau. C'est une menace. Et ce moment-là, il se cristallise au cours d'un événement qui se déroule ici, à Marseille, en juin 1881. Ce sont les fameuses vêpres marseillaises. Là aussi, très rapidement, les faits. Donc, nous sommes en juin 1881. La France vient d'établir son protectorat sur l'Italie. On est dans le contexte aussi d'exaltation patriotique, la revanche, etc. Les troupes françaises qui reviennent, donc, qui débarquent sur le vieux port, sont accueillies par une foule considérable en liesse. Tout le Marseille est pavoisé aux couleurs tricolores, etc. Et d'un seul coup, on entend des sifflets. Et immédiatement, la foule se tourne vers le bas du boulevard de la République, où se situe le Club National Italien, qui est une association italienne qui a eu l'outrecuidance de pavoiser ses fenêtres du mauvais drapeau tricolore, drapeau italien. S'ensuit 3 jours de chasse à l'italien, 3 morts, une vingtaine de blessés. Et Laurent Dornel, dans sa thèse publiée sous le titre « La France hostile », propose une relecture de cet événement qu'il inscrit comme le sorte de point de départ d'un système xénophobe développé sous la Troisième République. Et il montre bien que, en fait, cet événement tient une place de premier ordre dans le processus de politisation de la xénophobie qui se met à l'œuvre entre 1880 et 1914. Et Noiriel, Dornel d'ailleurs a fait sa thèse sous la direction de Noiriel, considère que ce moment est fondateur, qu'il est fondateur de l'intégration des conflits internes au monde ouvrier au sein d'une nouvelle matrice nationale. Pour la première fois, un incident de ce type est inscrit comme un problème politique national. C'est la première fois, pour le dire autrement, que l'on emploie... Parce que c'est un événement considérable, toute la presse en parle, etc. Tu évoques la question des sources. Voilà une autre source que nous mobilisons abondamment, la presse de l'époque. On pourra revenir, c'est un moyen de cerner l'opinion publique, mais évidemment pas le seul, ça pose tout un tas de questions et de problèmes. Et c'est la première fois, en fait, qu'on emploie, en 1881, le terme d'immigration au sens que nous lui donnons aujourd'hui, enfin, quand je dis nous, la société française, c'est-à-dire comme un problème. En fait, l'immigration s'invente comme un problème en 1881, à l'occasion des vêpres marseillaises. Et évidemment, tout cela va gagner en acuité dans les contextes de crise. La fin du 19e, c'est la Grande Dépression, sur le thème de la concurrence au travail. Et là aussi, les Italiens se font remarquer à leur corps défendant, puisqu'ils sont les victimes, et là je reprends là, encore une fois une formule de Gérard Noiriel, ils sont les victimes du seul pogrom qu'ait connu la France à son époque contemporaine. Ce sont les incidents d'Aigues-Mortes en août 1893. Là aussi, chasse à l'italien, chasse à l'ours, on disait, enfin, dit long sur le rapport, l'ours, le prédateur, le danger, la menace. Là aussi, plusieurs jours de chasse à l'italien, 8 morts, une quarantaine de blessés. Et surtout, ce qui va beaucoup frapper l'opinion, et vous imaginez en particulier l'opinion en Italie, c'est que tous les responsables sont arrêtés, ils sont jugés, et acquitté, ce qui là aussi, hein, en dit long, hein, sur le rapport qu'on entretient à cette question migratoire. La question du politique, elle se, on la trouve également dans l'engagement politique des migrants, mal perçu, toujours mal perçu par la société française. On cite souvent ce mot d'Albert Sarraute en 1927, ministre de l'Intérieur, qui déclare à l'Assemblée nationale « Le moindre des choses qu'on puisse demander à nos hôtes, les étrangers, c'est qu'ils respectent les règles de l'hospitalité. » Implicitement, la règle de l'hospitalité, c'est de, si vous permettez l'expression, de raser les murs. Hein, on ne veut pas les entendre. Et cet engagement politique, pour les Italiens, il est le fait d'une minorité, ce qui sera le cas d'ailleurs pour la plupart des populations étrangères. Par crainte légitime, là aussi on pourra en rediscuter, de la répression. Hein, puisque ça aussi, j'ai eu l'occasion de le montrer dans certains travaux, l'engagement politique est un facteur aggravant de l'expulsion. C'est rarement le seul, mais souvent on va trouver... Un militant communiste, par exemple, italien, au cours de l'entre-deux-guerres, hein, qui se fait un peu trop remarquer, eh bien, on va mener une enquête un peu poussée, et très rapidement, on va trouver soit qu'il a eu une altercation avec sa femme, soit qu'un peu éméché, hein, il a participé à une rixe à la sortie d'un bar, etc. Quoi. Donc on va mettre en avant cet élément, hein, donc comme perturbateur de l'ordre social, pour l'expulser, mais en fait, derrière, ce sont des motifs politiques. L'engagement de cette minorité rejaillit, en termes de statut, sur l'ensemble de ce qu'en Italie, on appelle la colonie. Si on pourra y revenir, hein, la colonie italienne à l'étranger. C'est le cas, notamment, à la fin du 19e, en ce qui concerne les anarchistes. Je vous rappelle que en juin 1894, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné par un anarchiste italien. Hein, donc un événement là aussi considérable et qui a pour conséquence une poussée d'italophobie. Hein, donc l'événement se déroule à Lyon même. Hein, les commerçants italiens sont pris à partie, ont détruit leurs boutiques, etc. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement de retour de ces Italiens vers l'Italie qui se sentent menacés hein, par la population française. Mais peut-être plus intéressant encore, c'est que dans l'opinion publique, et ça fait écho à des situations très contemporaines, quelque part, hein, donc ces Italiens qu'on perçoit déjà comme des manieurs de couteau, des types un peu violents, hein, toujours prêts à faire le coup de poing, etc., enfin, donc, qui sont une menace, eh bien, ils sont... on voit derrière chacun de ces Italiens, quelque part, un anarchiste. Hein, je dis parfois à mes étudiants, c'est une forme un peu de provocation, mais à peine, hein, à peine exagérée, que l'anarchiste italien, à la fin du 19e, c'est le djihadiste aujourd'hui. Y a cette idée que, vous voyez bien, aujourd'hui, que derrière un immigré, on y met plein de guillemets, quoi, il y aurait, d'ailleurs, vous le savez, hein, on est passé concernant l'immigration maghrébine, hein, les appellations sont tout à fait significatives, hein, puisqu'on est passé hein, on avait le nord-africain, le travailleur immigré, l'immigré, l'arabe, hein, et aujourd'hui c'est le musulman. Quoi. Et bien quelque part, l'italien, c'est l'anarchiste. Au cours de l'entre-deux-guerres, 1922, là aussi, moment important de rupture hein, dans l'histoire contemporaine. Mussolini arrive au pouvoir en Italie et donc se met en place une confrontation entre fascistes et antifascistes qui se transportent à l'étranger, puisqu'il y a un certain nombre de ces antifascistes, que l'on va appeler les fuorusciti, ceux de l'extérieur, hein, qui prennent le chemin de l'exil et qui vont mener la lutte contre les fascistes. Et une lutte qui est politique pour les réformistes, mais tous ceux... On va les mettre rapidement dans un ensemble qu'on va qualifier de révolutionnaires, hein, les communistes, les anarchistes, etc. Eux, ils n'hésitent pas à faire le coup de poing contre les fascistes. Et ça, évidemment, c'est très mal vécu hein, par l'opinion française. Et donc, là aussi, on retrouve cette idée, en fonction d'ailleurs de sa sensibilité politique, en gros, là aussi, je schématise, hein, lorsqu'on est de droite, derrière chaque Italien, il y a un antifasciste, et lorsqu'on est plutôt de gauche, derrière chaque Italien, il y a potentiellement un fasciste. Donc on leur attribue comme ça hein, des formes d'assignation d'identité politique, alors qu'encore une fois, la plupart de ces Italiens, des 800 000 Italiens présents en France hein, en 1931, sont dans une complète neutralité. Hein. Ce qui les préoccupe, évidemment, c'est surtout la question du travail. Cet engagement politique est considéré de manière traditionnelle par l'historiographie à la fois comme un frein à l'intégration, mais aussi comme un facteur d'intégration, hein, ancré dans un certain nombre de solidarités sociales. Les travaux de notre directeur, de notre cher directeur de l'UMRTLM, Xavier Domalin, hein, ont bien montré que ces Italiens, très tôt, ont participé, dès les années 1880, au mouvement de grève qui se mettait en place dans la région, en dehors, de manière spontanée, hein, en dehors de toute structure syndicale. Hein, donc ils participent à ces mouvements de grève. Et lorsque ces mouvements se structurent, hein, avec le développement de la syndicalisation du mouvement ouvrier en tant que parti politique, eh bien, ces Italiens jouent un rôle important du début du XXe siècle jusqu'aux années 1960, hein, où, je pense notamment, moi, pour avoir travaillé sur la question du Parti communiste, hein, il y a là, effectivement, un vecteur d'intégration. Donc on est sur ces deux facettes. Évidemment, les historiens ont aussi insisté sur la question du travail comme facteur d'intégration, sur les conditions de vie de ces migrants, et notamment le rapport, et nous y travaillons encore, mais on y reviendra notamment avec Béatrice, dans une perspective qui, cette fois, n'est plus centrée sur la question de l'intégration, du rapport à l'habitat, de ces migrants. Pendant longtemps, les historiens, en fait, mettaient justement cette question de la précarité comme un frein de la difficulté à cette intégration, ou comme un marqueur, justement, d'une difficulté à s'intégrer. Donc, vous voyez, cette question de l'intégration, elle obère presque d'une certaine manière la réflexion sur le statut de ces Italiens en France, du point de vue des historiens français. Ça peut vous paraître étrange aussi, mais pendant longtemps, jusqu'à il y a peu, il y a eu un cloisonnement des études entre la France et l'Italie. En gros, en France, on faisait l'histoire de l'immigration italienne, et puis en Italie, on faisait l'histoire de l'émigration italienne. Désormais, on fait l'histoire. Et d'ailleurs, les historiens doivent ici rendre hommage faire crédit aux autres sciences sociales. Hein, on est rarement les premiers, on est souvent à la traîne. Quoi, désormais, on s'intéresse plutôt aux migrations. Ça, pour Delphine, d'ailleurs, à juste titre, tu disais que je m'intéresse effectivement plutôt aux migrations italiennes, peut-être moins qu'à l'immigration italienne, comme on pouvait le définir auparavant. Et ces historiens italiens, eh bien, eux aussi, ont mis cette question politique en avant, et ils se sont beaucoup intéressés à la politique menée par l'État italien pour maintenir des liens avec, et je reprends les termes qui étaient employés pendant longtemps, la mère patrie. Historien italien et historien américain, et notamment, il y a un maître ouvrage qui n'est pas si vieux que ça, quoi, de Mark Shoat, qui est un historien américain, Immigrant Nation, The Making of Italy Abroad, publié en 2008, qui, justement, est vraiment une très belle analyse sur la manière dont l'État libéral, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, s'est préoccupé de la question migratoire. En fait, ici se pose la question de la conceptualisation de l'émigration par l'État italien. On a quand même affaire ici à un phénomène qui n'est pas unique, mais qui est quand même assez original. Au moment où ce pays se forme, puisque l'unité italienne se fait en 1861, c'est un pays qui se vide de toute une partie de sa population. Tout à l'heure, je disais 26 millions jusqu'aux années 1960. Ce que l'on appelle en Italie la grande emigrazione, la grande émigration, des années 1870 à 1914, c'est 14 millions. Donc, au moment où ce pays est en train d'achever son unité, de s'inventer comme une nation. Et en Italie, cette migration, elle est tour à tour considérée avec suspicion, elle est contrôlée, encouragée, en tout cas, elle est toujours considérée dans le souci de consolider la patrie. C'est ce qui va amener justement l'État italien à protéger ses citoyens à l'étranger et à promouvoir des politiques dont on espère qu'elles renforceront les liens entre ceux qui sont partis et leur pays d'origine. C'est pour ça que, du point de vue italien, c'est particulièrement intéressant, parce qu'en fait, la définition ou le statut de l'émigrant, en fait, participe d'un processus plus large de définition des citoyens, du caractère national, et même de l'identité, enfin, ou de l'idée, pardon, de l'idée d'une culture nationale. Alors pendant longtemps, je vais passer assez vite, on a accusé cet État libéral d'avoir négligé les migrants, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup plus complexes, on pourra peut-être y revenir, si vous voulez, dans la discussion, parce que très vite, la préoccupation, elle est la même qu'en Italie, vous connaissez sans peut-être ce fameux mot apocryphe d'ailleurs de D'Azeglio, hein, l'Italie est faite, reste à faire les Italiens. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle d'émigration italienne, mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les gens qui partent ne se sentent pas italiens. Ils n'en parlent pas la langue, d'ailleurs, quoi. Ils sont piémontais, ils sont toscans, ils sont ligures, ils sont napolitains, enfin, etc., etc. Donc, il y a cette volonté de nationaliser ces Italiens. On commence, et là, on retrouve la question des sources. L'une des premiers engagements de l'État italien, c'est de faire le point, c'est de les recenser. Et donc, dès les années 1860, se met en place tout un système de recensement des Italiens à l'étranger. Là aussi, je pense que je ne vous apprends rien, le recensement, c'est un acte politique, c'est un acte de pouvoir, de souveraineté, avant d'être une source pour l'historien. Et ce qui amène aussi, justement, on pourra en rediscuter si vous voulez, à porter évidemment un regard critique sur cette source qui, par ailleurs, est très difficile à manipuler. Donc l'idée, c'est que de développer, donc, non pas, vous le savez, puisqu'on est à l'époque du libéralisme, l'époque n'est pas encore au contrôle des frontières, très lâche. En revanche, c'est plutôt d'encadrer, d'assurer une tutelle sur ces migrants à l'étranger, et donc se mettre en place un certain nombre de services administratifs spécifiques, comme le commissariat général à l'émigration. Il y a également, on pourra y revenir si vous le voulez, puisque ces questions juridiques vous intéressent, il y a toute une série de dispositifs, de dispositions législatives qui sont prises justement pour assurer la protection de ces migrants. Et l'un des relais essentiels de cette politique, ce sont les consuls. Les consulats jouent un rôle essentiel. Là aussi, je ne développe pas, mais on pourra y revenir, puisque c'est l'un de mes objets recherche. Et j'ai eu la chance, après plusieurs années d'enquête, d'avoir enfin accès aux archives du consulat italien de Marseille. Et je suis en passe d'avoir accès aux archives du consulat italien à Paris. Très prochainement. Évidemment, cette politique de contrôle, d'encadrement, de nationalisation de l'émigration, elle se renforce à l'époque fasciste. Mussolini déclare « L'Italie ne fournira plus d'émigrants vers le monde. Il s'agit désormais d'envoyer le génie glorieux de sa race à travers le monde. » Donc, renversement de perspective. On est complètement dans le mythe de ce que les anglo-saxons ont appelé la « Greater Italy », la grande Italie, qui, et ça aussi c'est intéressant, on pourra y revenir, en fait, amène à une conception de la nationalité. Il y a d'ailleurs une loi qui est adoptée en 1912, très extensive, et qui intègre ce que l'on appelle les « oriundi » en Italie, c'est-à-dire des gens d'origine italienne. Oriundi, qui vient du latin, origine. On retrouve, ça fera sourire Béatrice, qui va considérer que je ramène tout au sport et en particulier au foot, mais on a là un révélateur extrêmement important. L'équipe nationale italienne, qui est l'un des porte-étendards de la propagande fasciste au cours de l'entre-deux-guerres, intègre des joueurs sud-américains, brésiliens et argentins qui ne parlent pas un mot d'italien, qui n'ont jamais mis les pieds en Italie, dans cette équipe qui sera championne du monde en 1934, en 1938. Hein. Et il y a toute une polémique qui se développe, notamment à l'étranger, et en particulier en France. On dit, ouais, d'accord, ils sont forts, ces Italiens, mais puis ça renvoie à un certain nombre de stéréotypes. Comme d'hab, c'est des tricheurs. Hein. Puisqu'en fait, ils font jouer des types qui ne sont pas italiens. Et les autorités italiennes répondent, hein, notamment au travers de la presse fasciste, en disant que, mais pas du tout, que la question ne se pose même pas. Ces gens-là sont et ont été toujours, enfin, ils ont toujours été des Italiens. Hein, et on retrouve ça jusqu'à récemment. Hein. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain en ce moment. Il y a un des joueurs du Paris Saint-Germain, Thiago Motta, qui est international italien, mais qui est en fait brésilien. Je pourrais multiplier les exemples. La préoccupation des autorités italiennes, hein, d'accord, la préoccupation des autorités italiennes, c'est d'empêcher la naturalisation. Hein, tu es italien, tu resteras italien. C'est le mot d'ordre, hein, des autorités fascistes. Et en France, en France, c'est compliqué parce que, vous le savez, hein, depuis en 1927, est adoptée une loi qui favorise cette naturalisation. Donc il y a là des éléments de confrontation sur lesquels on peut revenir. Et de la même manière, je pose ça pour la discussion parce que je pense que ça fera peut-être aussi écho à votre communication. En fait, cette question, elle va demeurer, alors évidemment, dépouillée de ses accents idéologiques, hein, mais elle se prolonge à l'époque républicaine, hein, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, hein, puisque Berlusconi remet cette question sur la table, et elle se cristallise autour de la question du vote des Italiens à l'étranger, hein, et du débat sur, justement, et là aussi se pose la question du statut juridique, hein, de ces Italiens à l'étranger à partir des années 2000. Puisqu'il me reste 5 minutes, quatre, pour vous dire en quoi, que d'une part, il ne s'agit évidemment pas de balayer d'un revers de main, hein, tout ce que je viens de vous dire, mais qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes un certain nombre à tenter de dépasser, hein, cette approche centrée autour, comme là aussi, pour le dire très vite, hein, vous m'interrogerez ou vous récuserez ces affirmations à l'emporte-pièce lors de la discussion, focalisée autour, en fait, d'une identité politique, hein, de ces migrants, ou d'un statut, hein, politique de ces migrants autour de la nationalité et de cette question de l'intégration. Et c'est pour ça que j'ai titré effectivement sur un passage d'une histoire politique à une histoire plus culturelle qui se centre, et là je reprends une notion d'Étienne Balibar, la notion d'identité culturelle, qui évidemment ne doit absolument pas être conçue, hein, comme un système figé, une sorte de modèle de pureté, mais qui a un sens quand on s'intéresse à l'Italie et aux Italiens, parce que ça renvoie à cette notion d'italianité, qui est pour nous extrêmement difficile à saisir, à comprendre. On n'a pas l'équivalent. La francité, on ne l'emploie pas, quoi. Et comment définir cette italianité? Je ne vais pas y répondre tout de suite, parce qu'en fait, c'est un débat qui n'a de cesse de se développer depuis l'unité italienne. En 2011, l'Italie a commémoré les 150 ans de son unité, ce qui faisait la une des médias, des débats à la télévision, des discours, des publications, etc., c'était, eh bien, la question « qu'est-ce que c'est qu'être italien ?». Et la réponse qui est le plus souvent donnée, comme définition la plus générique de l'italianité, c'est se sentir italien. C'est une forme d'appartenance, justement, culturelle, de référence culturelle qui fait que l'on se sent italien. Et cette italianité des migrants, en fait, elle est, et c'est ce sur quoi j'essaye de travailler avec d'autres, hein, bien sûr, eh bien, elle est modelée par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'empreinte régionale, important en Italie. Hein. La temporalité de l'émigration, c'est pas la même chose, hein, avant la Première Guerre mondiale, au cours de l'entre-deux-guerres, après la Seconde Guerre mondiale, ou même aujourd'hui, où on assiste à une nouvelle émigration italienne, et notamment vers la France. La question de la génération, hein, là aussi, avec Béatrice et d'autres collègues, hein, dans le cadre du colloque Migration et temporalité, j'en fais un peu de promo, qui vient de sortir, hein, enfin, chez Tartala, et les éditions de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Hein, on avait mis justement cette question de génération au centre des débats. Il y a aussi, vous l'avez compris, les formes d'assignation de la société d'accueil. Pour le dire très vite, beaucoup de ces Italiens se sont révélés Italiens parce qu'on les désignait comme tels. Le type qui débarquait du Piémont, hein, de sa campagne du Piémont, qui parlait le piémontais, etc., il s'est retrouvé, il s'est fait traiter de macaroni, de cristo, de babi, par la suite de rital. Donc, en fait, la société française le désigne comme italien. Et c'est de cette manière-là, en fait, qu'il prend conscience, hein, de cette identité qui, et c'est là, sans doute, pour moi, le point le plus important sur lequel je terminerai, qui ne se confond pas, hein, je crois qu'il ne faut pas confondre justement ce qui relève du statut peut-être juridique, hein, et ça on pourra en discuter ensemble, qui me paraît extrêmement lié à la nationalité, qui met en jeu la question de l'intégration. Ça serait complètement absurde de dire, même si ce terme d'intégration, je sais, suscite beaucoup de débats, etc., hein, mais bon, admettons, hein, il serait absurde de dire que ces Italiens ne se sont pas intégrés. Hein, en tout cas, ils sont devenus invisibles dans l'espace public, ce qui pose le problème des sources. Hein, comment faire, justement, quand on ne parle plus d'une population? Dans les années 1960, qui est la période sur laquelle j'ai travaillé pour ma thèse, hein, ils sont encore les étrangers les plus représentés en France, et pourtant, on ne les voit pas. On n'en entend pas parler. Hein, vous dépouillez toute la presse, vous regardez toutes les émissions de télévision, vous dépouillez tous les débats parlementaires, etc. Enfin, hein, donc, des heures et des heures de dépouillement, très peu de choses. Hein, donc c'est difficile. Pour autant, hein, et c'est en quelque part mon postulat, mon hypothèse de travail, hein, et ça va au-delà quelque part, peut-être aussi dans une démarche un peu citoyenne, c'est de dire que, eh bien, cette italianité, ce sentiment d'italianité, hein, cette identité culturelle, n'est en rien contradictoire avec l'injonction faite par à la fois les autorités et la société française à ces migrants, hein, qui n'ont d'autre choix, hein, que de s'intégrer, pour ne pas dire s'assimiler, puisque, hein, l'ouvrage intitule La République, hein, je vous rappelle que la République est une et indivisible, et qu'un des problèmes en fait fondamentaux en France, c'est que la notion de citoyenneté depuis la Révolution est liée à la notion de nationalité. Comment faire, si tu me donnes deux minutes, juste pour vous donner quelques pistes, en fait, comment faire pour essayer de dépasser ça? Ben, en fait, moi, j'essaye de travailler sur ce que j'appelle des lieux d'italianité. Ce qui m'amène à revisiter, justement, un certain nombre de thématiques qui ont déjà été évoquées, qui relèvent consulats, les églises, la presse, les associations, etc. Mais non pas dans une perspective d'intégration, mais de voir en quoi, justement, ces lieux constituent des pôles, des vecteurs de cette italianité. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler, de contourner la difficulté, ce qui amène à une relecture des sources aussi, en se centrant sur l'étude d'espace, de construction, d'expression, de diffusion d'un ensemble de représentations fondées justement sur l'appartenance à une communauté d'origine, qui est donc souvent désignée par cette notion d'italianité, et ce qui se traduit par des formes de relations concrètes ou symboliques avec l'Italie, avec le pays d'origine. Pardon, mais merci quand même de, de votre écoute.
Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation absolument passionnante. Et merci d'avoir cherché justement à t'approprier cette notion de statut et d'y avoir réfléchi avec ta propre approche, sachant que... Alors, ce qui m'a marqué, moi, dans ta présentation, c'est finalement le caractère qui apparaît pluridisciplinaire du travail de l'historien, puisque tu es amené finalement... À fouiller dans diverses sources. Alors, effectivement, ça peut être la presse, mais ça peut être des sources éventuellement juridiques, des textes juridiques, pour rechercher donc le droit à une époque donnée ou son évolution. Des sources éventuellement... tu parlais de statistiques, de chiffres. Donc ça, c'est extrêmement difficile à manier à toute époque. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement marquant de votre discipline. Finalement d'être confronté à une pluralité de sources qui elles-mêmes sont ancrées dans diverses disciplines ou relèvent de diverses disciplines, mais vous le faites ensuite avec votre propre approche d'historien.
Oui. Bah, si tu veux, c'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de l'histoire. On a longtemps, encore aujourd'hui, reproché, je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais un peu l'impérialisme des historiens, qui se mêlent un peu de tout. et de n'importe quoi, et qui n'ont pas forcément, effectivement, et je crois, enfin, moi en tout cas, je fais partie de ceux qui l'admettent avec une grande modestie, sans avoir toujours les outils appropriés. Alors, on essaye. Tu évoquais effectivement, quand on travaille sur la législation, je suis sûr qu'on prête le flanc à bien des critiques de la part des juristes. Mais c'est ce qui nous amène, et tu le sais, Delphine, les historiens, puisque tu travailles avec des historiens, justement, moi je dois dire que le fait de te côtoyer, de côtoyer Béatrice, de participer à ce type de séminaire, constitue à l'évidence un enrichissement considérable, puisque sans jamais prétendre à devenir un spécialiste de l'histoire du droit, par exemple, évidemment, les outils que vous employez me sont extrêmement précieux. Enfin, nous, extrêmement précieux.
Alors, un enrichissement, donc peut-être pour toi, tant mieux, un enrichissement énorme des historiens pour les autres disciplines, et notamment la nôtre, mais pas seulement en droit. Là, tu as bien montré, tu raillais un petit peu, finalement, le fait qu'aujourd'hui, tout serait historique, tel événement, tel chiffre est historique. Mais à t'écouter, on dirait plutôt, au contraire, donc rien n'est historique, puisqu'on voit bien que l'histoire permet, en mettant en perspective, en mettant en distance, eh bien de montrer que la criminalisation de la migration dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, il y a plus d'un siècle, voire auparavant encore, eh bien, était vécue par les Italiens. De même que le développement d'une politique d'émigration, qui a été une question, une problématique, et qu'il en est encore une aujourd'hui dans un grand nombre de pays, notamment maghrébins, eh bien, ça a été une problématique de l'Italie. Donc, toutes ces tendances, toutes ces problématiques, eh bien, qu'on a déjà vécues, qui se répètent pas forcément, mais en tout cas qui donnent une réflexion et surtout une mise en perspective.
Juste si tu permets, je crois que c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, d'aucuns, peut-être pas parmi mes collègues, et en tout cas souvent dans le débat public, il y a cette idée effectivement qu'il faudrait faire de l'histoire, hein, parce que justement, ça se répète. Non. Mais comme tu le dis, effectivement, je crois que c'est la mise en une forme d'un peu de mise en abîme qui permet, et ça fonctionne dans un rapport dialectique. L'historien se nourrit des problématiques du présent et à l'inverse, hein, se nourrir du... Effectivement, je pense que c'est assez intéressant de voir justement ce sur quoi un certain nombre de politistes et de juristes travaillent justement concernant ces politiques des migrations. C'est intéressant de les mettre en regard. Mettre en regard parce que... l'un des fondements, puisqu'on parle de l'un des fondements, enfin si ce n'est même peut-être le fondement de notre discipline, quoi, c'est l'attention accordée au contexte. Et qu'évidemment, le principal écueil, c'est l'anachronisme. Regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui, et à l'inverse, regarder les situations contemporaines avec des problématiques du passé.
Et pour faire le lien avec la présentation que va faire Nathalie Rubio, donc. Dans la discipline juridique, il est intéressant justement de rappeler, donc tu as parlé de l'évolution du rapport à l'altérité, et éventuellement, donc avec un impact sur l'identité italienne, sur le plan juridique et du statut juridique, l'évolution historique, elle est impressionnante, puisqu'aujourd'hui, les Italiens sont passés bah, finalement de cet étranger rejeté, criminel, etc., à des Européens qui effectivement ont un statut de ressortissant communautaire.
Et de citoyens
européens, exactement.